Bonjour Fanny Blechner.
Bonjour Nathalie, bonjour à toutes, bonjour
avec
à tous.
Avec vous, on feuillette la presse française de ce mardi. Et si une nouvelle Europe voyait le jour ? Question posée ce matin dans la plupart des journaux.
Car Emmanuel Macron envisage une révision des traités européens. Depuis Strasbourg hier, il a plaidé pour une Europe à géométrie variable et propose que les dirigeants des 27 en discutent lors de leur sommet en juin prochain. Le président français souhaite notamment avancer en continuant à généraliser le vote à la majorité qualifiée en lieu et place du vote à l'unanimité des États membres, qui est fréquemment source de blocage. Un sujet clivant pour les Européens, selon les Échos, qui rappellent que 13 États membres ont marqué leur opposition hier dans un courrier commun, marquant une nette ligne de fracture entre l'Ouest et le Sud du continent d'une part, le Nord et l'Europe centrale d'autre part. Mais les citoyens de l'UE, qu'ils soient europhiles ou eurosceptiques, veulent surtout changer l'Europe. C'est en tout cas ce qu'estime l'eurodéputé Guy Verhofstadt, qui a co-présidé la conférence sur l'avenir de l'Europe. Pour lui, l'intégration poussée de l'UE n'est plus une question de choix politique, c'est un choix de nécessité et de survie pour l'UE. Il s'exprime dans les colonnes du Figaro. Le Figaro qui anticipe toutefois dans son édito, gare à l'union à la carte, cette Europe-là ne serait jamais une puissance politique. La division, c'est aussi ce que craint Lacroix, qui distingue l'Europe des conventions citoyennes et l'Europe des intérêts, l'Europe idéale et l'Europe des compromis, l'Europe dont on rêve et l'Europe du réel. L'une ne va pas sans l'autre. Quand la guerre menace aux frontières, l'urgence peut sembler ailleurs, mais c'est aussi précisément parce qu'elle est confrontée à de nouvelles menaces que l'UE doit se poser la question des limites actuelles de son organisation.
Oui, car c'est bien dans un contexte de guerre que ces questions sont soulevées.
En effet, Emmanuel Macron a prévenu hier qu'une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'UE prendrait des décennies. Il propose une alternative avec une entrée en attendant dans ce qui serait une communauté politique européenne. Cela permettrait, explique Libération, de coopérer en matière de sécurité, d'énergie, de transport, d'investissement, d'infrastructure, de circulation des personnes, c'est-à-dire une grande part des compétences actuelles de l'UE, conclut le quotidien.
L'objectif, c'est aussi de tenir tête à Vladimir Poutine, le dirigeant russe que le monde décrit comme de plus en plus isolé.
Au lendemain des célébrations du 9 mai, le président russe a largement fait le parallèle entre les exploits des soldats soviétiques lors de la Grande Guerre patriotique de 1941-1945 et le conflit en Ukraine. Plus étonnant, dans ce nouveau conflit, il a assuré que la Russie avait tout fait pour éviter la confrontation avec l'Occident. Un discours tout en contrôle, selon Le Parisien aujourd'hui en France. Ces dernières semaines ont été propices à la surenchère verbale. Cette fois, le président russe a préféré entrouvrir une porte à la négociation, à une résolution diplomatique, analyse l'Humanité, qui se méfie toutefois. Depuis le début du conflit, Vladimir Poutine ne cesse de souffler le chaud et le froid.
Et puis toujours à propos de la Russie, Fanny, cet entretien exclusif à lire dans Libération.
Oui, un entretien avec un ancien combattant du groupe paramilitaire russe Wagner. Libé qui prévient dans son édito, donner la parole à un tel personnage dont au fond on ne sait que ce qu'il veut bien nous dire peut paraître indécent. Mais ce témoignage est capital, éminemment utile car il permet de déconstruire le discours de Vladimir Poutine. Oui, le Kremlin envoie des miliciens faire le sale boulot là où il l'estime nécessaire. Car cet homme qui a quitté l'armée et fait de la prison témoigne à visage découvert et explique comment, égaré, au chômage, il entend parler par un ami de cette entreprise qui peut lui donner sa chance. Il arrive alors dans un camp militaire où toutes les armes étaient fournies par le ministère de la Défense. Il part ensuite pour l'Ukraine d'abord, on est alors en 2015. La propagande nous a fait croire que nous devions défendre un monde russe en danger, raconte-t-il. Mais pas une fois, je n'ai été sous le feu ukrainien. Direction ensuite la Syrie, où l'objectif était de cacher au peuple russe le coût réel de la victoire, créer l'illusion que nous l'avions remporté avec peu de sang. Ce milicien assure ne pas avoir été témoin à titre personnel de crimes de guerre, mais estime qu'une formation militaire de la taille de Wagner devrait être dotée d'une existence juridique qui lui accorderait des pouvoirs, mais aussi des devoirs, des obligations au regard du droit international.